Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, c'est l'heure du français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h, donc en français, en ce jeudi 31 mars 2022. Au programme, nous aurons le sport, nous ferons un détour par l'économie australienne comme chaque jeudi, et nous parlerons à un jeune auteur français et son premier roman sur l'Australie. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 31 mars. Nous ferons le point sur les inondations en Nouvelle-Galles du Sud après une période de pluie une nouvelle fois très intense ces derniers jours. En Ukraine, et peut-être une accalmie à Mariupol et un cessez-feu local temporaire pour évacuer les derniers civils bloqués dans la ville. Et le monde du sport en Australie qui rend hommage à l'un des siens, Shane Warne, hier à Melbourne. Comme je viens de vous le dire en titre, on va parler des inondations pour débuter ce journal. Des inondations qui ont continué à faire rage dans la partie nord de Nouvelle-Galles du Sud, provoquant des évacuations à Lismore, par exemple, seulement quelques semaines après des inondations précédentes. Il y a une femme qui est recherchée, une femme est portée disparue. Elle s'appelle Anita Brackell, elle a 55 ans. Elle est de la région de Nowra. Donc les recherches poursuivent. La police affirme qu'elle a été piégée dans sa voiture mardi soir près de la Wirrala Road. C'est donc au sud de Lismore. La commissaire adjointe du SOS, Nicole Hogan, a déclaré à l'ABC que certains nombres d'avertissements et d'ordres ont d'ores et déjà été mis en œuvre. On l'écoute.
We have 20 evacuation orders out at the moment with impacting approximately 27,000 people. There is also a number of evacuation warnings in the communities in the Northern Rivers and in the Mid-North Coast areas. And we are trying to get people back into their communities as quickly as we can. So we will continue to work with the communities in those areas that are under evacuation order. And as soon as it's safe to do so, we'll lift those orders.
Ouais, donc la commissaire adjointe du SOS, Nicole Hogan, fait très attention si vous êtes dans la région donc de Lismore. L'ancien maire de Byron Bay a demandé que le financement gouvernemental des aides en cas de catastrophe soit révisé à la suite donc d'une série de catastrophes naturelles dans tout le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Simon Richardson a déclaré à SBS News que le modèle actuel de financement des cas catastrophiques est fait tout à l'envers. La plupart des financements venant après la catastrophe plutôt qu'avant sous forme de stratégie ou de préparation d'atténuation de problèmes écologiques. Il a dit qu'une partie du problème réside dans le processus de planification actuel qui retire aux conseils locaux le pouvoir d'approbation pour des développements au-dessus de plusieurs millions de dollars, tout en supprimant leur pouvoir d'arrêter, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement. On l'écoute.
West Byron development was just approved. It would have had 90% opposition by the community. Council refused it. In this particular case, the planning panel, regional planning panel, also refused it, and it just won an appeal only about a week ago, and right now is utterly underwater. And so when the community looks around and sees these decisions, they scratch their heads.
13h04, direction l'Ukraine maintenant. Un nouvel espoir pour la ville de Mariupol. Cette ville est la plus durement frappée par l'armée russe, mais les autorités de Moscou semblent avoir autorisé un cessez-le-feu local afin de permettre l'évacuation des civils. Mais c'est un cessez-le-feu avec des conditions. Marie Normand pour RFI.
Le ministère russe de la Défense exige du gouvernement ukrainien qu'il s'engage par écrit à respecter ce cessez-le-feu de façon inconditionnelle, qu'il s'engage également à assurer la sécurité des convois de bus qui circuleront le long de l'itinéraire convenu. Ce cessez-le-feu doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville de Zaporijjia, à quelques 220 km au nord-ouest, avec une étape par le port de Berdiansk, qui est lui toujours sous contrôle russe. Moscou propose au Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés réfugiés et à la Croix-Rouge de participer pour, je cite, que cette opération humanitaire réussisse. Cette annonce fait suite à la tentative infructueuse du président français Emmanuel Macron d'organiser cette évacuation avec le soutien de la Turquie et de la Grèce. À l'issue d'un nouvel entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine mardi, il avait soutenu que les conditions d'une telle mission n'étaient pas réunies.
Et c'était Marie Normand pour RFI. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, a visité une centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine. Selon M. Grossi, même si l'AIEA n'est pas impliquée dans les pourparlers politiques, ses membres sont en contact permanent avec les responsables russes. Il dit que le personnel de l'agence en Ukraine est là pour fournir une assistance technique et renforcer la sécurité des installations nucléaires dans le pays. On l'écoute.
We are trying to be very active in order to ensure that as soon as possible this situation is redressed and the facilities are back in the hands of the Ukrainians. It's a difficult work, as you can imagine, but one that it is, of course, inescapable, and it is our responsibility.
Voilà donc pour la situation dans le nucléaire en Ukraine. Direction Kharkiv maintenant, et après d'intenses bombardements, une petite accalmie semble prendre place. Et l'urgence, c'est aussi la protection des œuvres d'art et le patrimoine culturel de cette région. Reportage de Sami Bourelifa.
16 mètres de haut, le monument de la place de la Constitution disparaît progressivement derrière des sacs de sable. Empilés en pyramide, ils avalent déjà la moitié de la statue qui trône au sommet. En fonte noire, la silhouette d'une femme ailée brandissant une couronne. Elle est le symbole de l'indépendance de l'Ukraine, explique fièrement Volodia.
On ne veut pas que nos monuments soient endommagés par des éclats d'obus. Nous aimons notre patrimoine, c'est pour ça que nous le protégeons. Cette statue, c'est l'héritage de nos enfants et de nos petits-enfants. Les générations futures doivent se rappeler que nous avons construit tous ces monuments de nos propres mains.
Volodia et ses collègues ouvriers chargent les sacs de sable dans la nacelle de la grue. Depuis une semaine, ils ont couvert une grande partie des 50 monuments de la ville.
Le 23 mars, nous avons commencé par la statue du poète Taras Shevchenko, grande figure du patriotisme ukrainien. Même durant l'occupation allemande de l'Ukraine, sa statue n'avait pas été touchée. Elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale.
Au loin, les déflagrations des bombes résonnent. Prochaine étape pour Volodia et les autres ouvriers, ériger des barricades autour du monastère de la ville, vieux de 300 ans.
Et c'était Sami Bourelifa, donc dans les rues de Kharkiv. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande aux États membres de mettre en œuvre les recommandations de financement pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU. S'adressant à la commission de maintien de la paix, M. Guterres a déclaré que les catastrophes qui ébranlent les fondements de l'ordre international sont un désastre pour les pays en développement, et il renforce le besoin de missions de maintien de la paix. D'après lui, le monde est confronté au plus grand nombre de conflits violents depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'écoute.
The problem is that our task grows larger by the day. As detailed in the report, we are facing the highest number of violent conflicts since 1945, from Yemen to Syria, Myanmar and Sudan, from Haiti to the Sahel, and on and on. And now the war in Ukraine, a catastrophe shaking the foundations of international order, spilling across borders and causing skyrocketing food, fuel and fertilizer prices that spell disaster for developing countries.
C'était donc Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité internationale, direction la Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson devrait faire face à des questions sur son soi-disant scandale du Partygate lorsqu'il frontera aujourd'hui le comité de liaison de la Chambre des communes. Number 10, son bureau a déclaré à plusieurs reprises que Boris Johnson n'avait pas induit en erreur le Parlement britannique ou même les électeurs lorsqu'il avait nié avoir enfreint la réglementation contre le Covid-19, mais il aurait également assisté à au moins la moitié des 12 soirées présumées qui ont eu lieu dans les locaux de 10 Downing Street. La police britannique a commencé à infliger des amendes pour une série de fêtes organisées dans le bureau du Premier ministre au mépris des lois du confinement en vigueur dans tout le pays à l'époque, mais les personnes condamnées à cette amende n'ont pas encore été nommées. Dans une interview accordée à Sky News, le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a reconnu que les amendes étaient tout simplement appropriées.
Of course, we wait to see the outcome of the conclusion of the Met process, and there will be an opportunity then for an update on Sue Gray's report and full transparency around that. And yes, inevitably, the fixed penalty notice is for those that have breached the regulations, and we stand by and support the fact that there should be the Met process, the Sue Gray process, an accountability for this.
Et c'était donc Dominique Raab, le vice-premier ministre, sur Sky News. Direction l'Irak maintenant, et c'est une paralysie institutionnelle qui plombe le pays. Le Parlement n'arrive pas à élire un nouveau président. Les explications avec Lucille Wasserman.
L'Irak est-il devenu ingouvernable ? Une demi-année après les élections, les habitants attendent toujours le nom de leur président et du Premier ministre. Pour conduire le vote, 220 députés sur 329 doivent être présents au Parlement. Et à trois reprises, le quorum n'a pas été atteint. En cause, la détermination de Muqtada Sadr, grand vainqueur des élections, à imposer ses candidats au poste clé de l'État, sans négocier avec les partis adverses, pro-Iran. Depuis 2005, la tradition politique irakienne veut pourtant que tous les partis y trouvent leur compte. Mais aujourd'hui, Muqtada Sadr veut former un gouvernement dit de majorité et refuse le compromis. Problème avec ses alliés kurdes et sunnites, l'influent clair chiite n'atteint pas les 220 sièges nécessaires et les partis pro-Iran continuent de boycotter les sessions. La plus haute instance judiciaire a donné aux députés jusqu'au 6 avril pour élire le chef de l'État, mais ne dit pas ce qu'il se passera si le délai n'est pas respecté. Certains observateurs évoquent la possibilité de nouvelles élections.
Et c'était Lucie Wasserman pour RFI. Un service a été organisé pour Shane Warne, qui est décédé subitement à l'âge de 52 ans il y a quelques semaines. Summer, la fille de Shane Warne, a prononcé un discours émouvant, remerciant son père de l'avoir sauvé pendant des moments difficiles. Il y avait environ 50 000 membres du public, 50 000 personnes qui se sont réunies au stade, donc au MCG, pour faire leur dernier adieu à Shane Warne. Et d'autres ont regardé à la télévision, une énorme production donc au MCG. Le service a commencé par un moment de silence, une minute de silence et une vidéo présentant les meilleurs moments de la carrière de Shane Warne. Le maître de cérémonie, c'était Eddie McGuire. Il a été accueilli par la foule et il y avait également l'acteur Eric Bana qui lui a rendu hommage.
And so began his great love affair with a passion that knew no boundaries that would turn Shane Warne into the greatest leg spinner of all time. Indeed, he changed the game of cricket like only the legendary Don Bradman had before him. Heart magician, full-time showman, he mesmerised fans as he did the best batsman in the world. Meanwhile, kids in dusty laneways and backyards wanted to be just like Warne.
Voilà, donc c'était au MCG hier soir, un moment très émouvant si vous étiez fan du cricket, tout simplement fan de sport. Shane Warne, donc, qui a été honoré hier au MCG. 13h13, on va faire un court tour d'horizon de la météo en Australie. À Perth, il fera 31 degrés aujourd'hui, Adelaide 22, Melbourne 21 degrés, Hobart, vous aurez un petit peu froid, il fera 15 degrés, Canberra 18, Sydney 22 degrés, il fera 29 degrés à Brisbane, 33 degrés à Cairns, et comme toujours, il fera le plus chaud, 34 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité. Aujourd'hui, on l'a vu dans ce journal, un point sur les inondations en Nouvelle-Galles du Sud. La situation qui a l'air de s'améliorer, mais faites quand même attention si vous êtes dans la région de Lismore. En Ukraine, petite accalmie peut-être à Mariupol. Un cessez-le-feu local et temporaire pour évacuer les derniers civils bloqués dans la ville. Et on vient d'entendre le monde du sport en Australie qui rend hommage à Shane Warne hier soir à Melbourne. Voilà, c'est tout pour ce journal. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le sport.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Allez, je vous la joue une dernière fois parce que c'est la fin du mois de mars et c'est une dernière fois pour cette chanson Benjamin Biolay, Comment est à peine, qui faisait donc partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. J'adore Benjamin Biolay, ça me fait juste trop plaisir de vous le jouer. 13h20, on va parler bien maintenant d'économie, non de sport, pardon, il est l'heure de passer au journal des sports tout de suite. Journal des Sports. Et on va parler de football dans ce Journal des Sports aujourd'hui avec la qualification des filles du Paris Saint-Germain qui battent le Bayern de Munich au score total de 4-3. C'était 2 partout après le temps réglementaire. Les filles du PSG donc qui font mieux que les garçons du PSG en se qualifiant pour la demi-finale de la Champions League. Elles devraient jouer au prochain tour, soit la Juventus ou alors peut-être l'Olympique Lyonnais. On parle maintenant des qualifications pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui aura lieu en fin d'année au Qatar. Eh bien, ces qualifications, vous avez pu les suivre à l'antenne d'SBS Télévision. Et deux grosses surprises. On va s'attarder sur vraiment deux grosses surprises. Aujourd'hui, tout d'abord, la qualification du Cameroun. C'est une grosse surprise puisque l'Algérie était totalement favorite dans cette rencontre. Algérie qui était invaincu depuis plus de 60 matchs sur son terrain, eh bien les Camerounais ont fait plier les Fennecs, comme nous l'explique Benjamin Moukandjou. C'est un ancien international camerounais.
Beaucoup se sont posé la question, est-ce que le fait d'avoir changé d'entraîneur était une bonne chose? Moi j'ai répondu qu'il fallait attendre le deuxième match pour pouvoir tirer les conclusions. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et une fois de plus, on a vu qu'aujourd'hui on peut donner raison au président de la fédération, qui a décidé de mettre Rigobert Song en tant qu'entraîneur, parce que ce qu'on a retrouvé dans cette équipe, c'était son fighting spirit. Quand on est Camerounais et quand on porte le maillot du Cameroun, on est transcendé. On a comme un esprit qui nous habite, mais cet esprit de la victoire, cet esprit de pas perdre. Et c'est ce qu'on a retrouvé, parce que il restait quoi? Même pas une minute. On se dit que c'est fini. J'en connais plein qui auraient lâché, mais cette équipe, elle a montré qu'elle a de la valeur. Elle allait jusqu'au bout, elle a cru en ses chances et à ce but qui nous a rendu complètement dingue.
Benjamin Moukandjou. Allez, on écoute également bien la réaction de l'homme, du chef d'orchestre derrière cette victoire, le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, Rigobert Song.
Mes joueurs, ils ont pris vraiment cette responsabilité de faire ces efforts. Je leur ai dit que le match se gagne aussi mentalement. La tactique, oui, mais aussi c'est le mental. Le mental a fait la différence parce que à l'heure où on a pris un but, je pense qu'on n'avait plus espoir. Mais mes joueurs, ils se sont remis, ils se sont rappelés qu'un lion n'est jamais mort, même s'il dort, il reste toujours éveillé. Et ils ont pu faire la différence.
Rigobert Song donc, et vous en doutez, une victoire comme celle-ci sur le fil, ça déclenche des passions, des sourires, des rires. Direction le Cameroun, avec cette réaction du peuple camerounais.
Nous sommes très contents des Lions indomptables. Ils nous ont démontré que impossible n'est pas camerounais. Allez les Lions, nous sommes tous derrière vous.
Tout le peuple camerounais est tellement content et c'est la fête vraiment partout dans les villes au Cameroun. On remercie le nouveau coach des Lions indomptables qui a vraiment prouvé qu'il était digne de porter le Cameroun jusqu'au Qatar 2022.
Très 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 fier de cette victoire-là. J'ai aimé le match et tout. Je suis fier des Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Quoi.
La fierté, le bonheur, la joie que le Cameroun soit encore qualifié à la Coupe du Monde. Je n'attends pas qu'il remporte la Coupe du Monde. On attend juste qu'il nous fasse honneur, qu'il mouille le maillot pour le Cameroun. Aujourd'hui, on a prouvé que nous sommes les enfants bénis. Le football, c'est au Cameroun. Et on a eu espoir jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui nous a fait avoir cette victoire.
Je suis vraiment très, très contente par la victoire des Lions. J'étais sûr qu'il avait gagné.
Voilà donc la joie et le plaisir des Camerounais. Ils seront donc à la Coupe du Monde au Qatar. Une autre équipe qui y sera, ce sera le Sénégal. Et c'est une surprise. Ils ont battu au tir au but l'équipe d'Égypte. On écoute Aliou Cissé. Du Sénégal.
Pour vous dire la vérité, les séances de tir au but, c'est normal qu'on tremble parce qu'on a tellement eu de mésaventures dans ces tirs au but-là. Est-ce que c'est synonyme d'être fort mentalement? Certains le diront que le Sénégal est devenu plus fort parce qu'on gagne au tir au but. Mais le Sénégal a toujours été fort. Peut-être qu'à un moment donné, l'adversaire était meilleur que nous. Il faut l'accepter. Et sans pour autant penser que l'équipe qui a perdu démérite. Aujourd'hui, l'Égypte ne démérite pas. Ils ont fait un très gros match à domicile. Aujourd'hui, ils n'ont pas été mauvais. Mais je pense qu'on l'a désiré plus et on l'a eu.
Aliou Cissé. Voilà donc le Sénégal qualifié également contre toute attente contre l'Égypte. Je vous rappelle que la Coupe du Monde, vous pourrez la suivre en intégralité et gratuitement à l'antenne d'SBS Télévision en fin d'année 2022. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants où nous aurons au téléphone Nicolas Perpich pour décrypter l'actualité économique du pays. Mais c'est tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était Julien Doré avec Paris Seychelles et j'ai décidé que si vous ne tapiez pas du pied en écoutant cette chanson, vous étiez simplement pas normal parce que c'est vraiment une chanson qui donne la pêche. Il est 13h29, on fait une courte pause et j'aurai au téléphone Nicolas Purpich pour lui parler. On va parler avec lui et bien de l'économie australienne et faire un petit point sur ce qui se passe à travers le pays et ce qui vous concerne au niveau de votre argent. Tout de suite après ça.
Opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Et comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité économique à travers le pays avec Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et on commence avec cette enquête par le Sénat qui propose une nouvelle fois la protection des salaires des employés. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est en fait quand les employeurs ne payent pas correctement leurs employés, donc ils sont payés en dessous de ce qu'ils devraient être payés, c'est un sous-paiement. En anglais, ils disent « the wage theft ». Et donc, il y a eu cette enquête par le Sénat qui a examiné ça depuis 2019, ça a été lancé en fait, et ils ont trouvé que c'est systématique, c'est un problème prolongé, et en fait, les travailleurs, les employés, ils ont souvent trop peur de se plaindre. Donc, ils ont dit que là, il faut changer les lois pour mieux protéger les employés. Ils disent que ce sous-paiement des salaires, ce wage theft, et aussi un sous-paiement de la superannuation, est estimé à 6 milliards de dollars chaque année. Donc, c'est vraiment énorme. Et en fait, ils ont trouvé que les pires secteurs, c'est les hôpitaux, les universités, le secteur de l'horticulture, les gens qui travaillent dans les nettoyages des maisons, des appartements, des business, etc. Les gens qui font le ménage. Et des grandes compagnies, des noms très connus, Qantas, National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, Coles, Woolworths et aussi l'ABC où je travaille aussi. Et donc, selon ce comité du Sénat, il faut changer le Fair Work Act pour rendre ça, ce genre de comportement hors la loi. Et ils ont fait 19 recommandations en tout pour assurer que les business ne peuvent pas faire ça de façon exprès, de faire ça intentionnellement pour baisser les salaires pour que eux ils puissent faire plus de bénéfices. Donc ils disent qu'il faudrait introduire des pénalités plus hautes contre ces compagnies-là et ça devrait être hors la loi pour les compagnies de payer sous le salaire minimum. Donc c'est assez incroyable qu'ils puissent le faire de toutes les façons. Et donc selon un des témoins à l'enquête, quelqu'un qui travaille dans la restauration, les cafés, par exemple, il travaillait, je crois, dans un café, il dit que dans ce secteur-là, dans les cafés, dans les restos, c'est devenu complètement normalisé. Et on se plaint, on nous dit que regardez autour de vous, tout le monde travaille de la même façon, ça a toujours été comme ça, alors tant pis. Si vous n'êtes pas content, allez travailler ailleurs. Donc ils disent que c'est vraiment un problème qui touche des milliers de travailleurs et peut-être autant que 13% de tous les travailleurs ici en Australie. Donc c'est vraiment pas quelque chose de petit, c'est un énorme problème en fait.
Ouais, et puis c'est grave quand ça devient une normalité hein, tout ça.
Voilà, ouais, ouais.
Allez, on va parler du Covid et on peut se poser la question maintenant, quelques semaines après la levée de principalement toutes les restrictions à travers le pays, est-ce qu'on peut juger l'effet économique sur les business et sur l'économie, principalement dans les grandes villes ?
Et c'est difficile à savoir, et c'est vrai que ça, c'est pas la même chose dans toutes les villes. Donc il y a certaines villes où presque toutes les restrictions ont été levées, et c'est bon, etc. Il y en a d'autres où ça a été levé en partie, mais pas complètement. C'est vrai que les restrictions les plus sévères, ça a rendu les grandes villes de Perth un peu comme des villes fantômes pendant une certaine période. On pouvait se balader dans les grandes rues, dans les arcades. Il y avait des business fermés partout, des business qui fermaient très tôt. Et c'était devenu presque silencieux. Moi, je suis à Perth et je peux vous dire que depuis un mois qu'on a les restrictions les plus sévères, le centre Perth est quasiment vide. On marche à travers les arcades, tout est fermé, on entend à peine des pas. C'est assez étonnant. Il y a les restrictions qui ont été levées cette semaine. Mais je crois que la différence la plus importante dans les villes, c'est si il faut toujours porter un masque à l'intérieur ou non. Et là, ça semble faire la différence. Et en parlant avec les business, avec les groupes qui représentent les business comme le Chamber of Commerce and Industry ou the housing sector, ils disent que dans les villes où il faut toujours porter des masques à l'intérieur, c'est là où les gens ils reviennent moins au centre-ville. Alors, non seulement les gens qui veulent faire des courses, mais les travailleurs. Par exemple, le Property Council a fait un sondage où ils ont trouvé que 61% des travailleurs ont choisi de travailler à la maison à cause du fait qu'ils ne voulaient pas aller au travail porter un masque pendant 8 ou 10 heures. Et seulement 10% de ces travailleurs choisissaient de travailler à la maison parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid. Donc ça, c'était vraiment la grande différence pour faire rentrer en centre-ville les travailleurs qui, après, eux, vont bien sûr acheter du déjeuner, acheter d'autres choses, dépenser de l'argent et faire bouger les centres-villes, faire bouger l'économie du CBD.
Et les fameux cafés à $7 aussi, comme on avait parlé la semaine dernière.
Les cafés à $7, ça aide pas du tout. Donc, les gens sont plus contents de faire le café à la maison où ça coûte vraiment pas trop cher. S'ils ont une bonne cafetière, c'est peut-être qu'ils investissent les $7 chaque semaine pour acheter une bonne cafetière.
Ouais, tout à fait.
Ça semble être la différence. Donc, dans les villes où il faut toujours porter un masque, les groupes comme le Chamber of Commerce and Industry ou le Property Council, ils disent il faut abandonner les mandats pour les masques le plus tôt possible que c'est conseillé par le Chief Health Officer. Donc, si c'est pas maintenant, dans un mois ou deux au maximum, parce que sinon, les villes vont rester des villes fantômes, comme ils disent, le ghost town.
Ouais, faut quand même rappeler que c'est une demande des business, hein, des entreprises, et non pas forcément du système de santé. Hein. C'est là où on voit peut-être un clash. Hein.
Oui, voilà. Donc c'est pas simple non plus. Ça, c'est vrai. Ouais.
Absolument. Merci Nicolas pour d'avoir décrypté l'actu économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
À la semaine prochaine.
Semaine prochaine.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et c'était Claria Luciani avec cette chanson « Amour toujours ». Et on doit se dire quand même qu'on parle quand même très bien d'amour dans les chansons françaises. C'est vraiment quelque chose qu'on voit tous les mois dans notre sélection musicale. Claria Luciani donc avec « Amour toujours ». 13h40, on fait une courte pause et on va parler d'un roman sur un périple initiatique de 3 backpackers. C'est avec Grégory Pless et l'auteur Guillaume Besson. Tout de suite après ça.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va discuter avec un jeune écrivain qui s'appelle Guillaume Besson. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Guillaume, vous venez de faire publier votre premier roman qui s'appelle Le rêve australien. De quoi parle ce livre ?
Alors, Le rêve australien, c'est l'histoire de trois jeunes Français en situation d'échec. En échec sentimental, professionnel et familial, s'ennuyant en France et tournant en rond. Et ils vont décider de partir dans un grand voyage en Australie, à l'autre bout de la Terre, dans un visa working holiday, pour essayer de chercher un sens à leur vie. Donc, mes personnages s'appellent Pierre, qui est un jeune menuisier, Valentin, un étudiant, et Elsa, une jeune femme angoissée. Ils vont se rencontrer à Sydney, dans une auberge de jeunesse, et partir ensemble dans un grand voyage à travers l'Australie. Un voyage qui va les mener à la rencontre de centaines d'autres jeunes venus du monde entier comme eux, et essayant de chercher un sens à leur existence.
Alors, vous le disiez, ces trois jeunes, ils viennent avec un visa vacances-travail. On sait que c'est une forme de séjour en Australie qui est très populaire chez les jeunes Français. Il y en a plus de 500 000 qui sont venus en Australie par ce biais au cours des 20 dernières années. C'est le pays le plus populaire, d'ailleurs, auprès des jeunes Français pour ce type de programme. Et vous-même, vous avez fait la même expérience il y a quelques années.
Exactement. Quand j'avais 19 ans, je suis parti en Australie. Ça a été la plus belle année de ma vie. J'étais jeune et c'était l'année de mes premières fois, la première fois si loin de ma famille pendant si longtemps. Je suis vraiment tombé amoureux de l'île, du pays, des paysages, de ses habitants, de cette culture si particulière. J'y ai rencontré des amis extraordinaires, j'y ai vu des paysages incroyables. Et en fait, depuis, je vis un petit peu dans la nostalgie de l'Australie. Je suis rentré il y a 8 ans maintenant. Et j'ai envie d'y retourner, j'y pense souvent, j'essaie de replanifier des voyages pour y retourner. Donc c'est une déclaration d'amour à l'Australie, ce roman.
Ouais, alors je confirme, pour l'avoir lu, effectivement, c'est un portrait globalement très positif qui est dressé sur l'Australie. Il y a quand même les aspects un peu plus sombres du pays qui sont abordés, mais dans l'ensemble, on sent que ça vous a beaucoup plu. Vous le disiez, donc c'était il y a 8 ans que vous avez fait cette expérience. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire ce livre ? Peut-être que vous avez mis 8 ans à l'écrire, je ne sais pas.
Alors, quand je suis rentré d'Australie, j'ai continué mes études. J'ai fait d'ailleurs un master de relations internationales où j'ai écrit un mémoire de master sur la politique étrangère australienne. Donc, je continuais de rester très dans le bain de l'Australie. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que vraiment la nostalgie me prenait pendant mes heures de travail. Et j'ai voulu commencer à écrire ce roman, donc je l'ai écrit quand j'avais 24 ans. Et ensuite, ensuite, j'ai trouvé une maison d'édition. Il y a eu 2 ans de travail avec la maison d'édition et le livre sort aujourd'hui. Mais disons que ça fait 7 ou 8 ans que cette idée me trotte dans la tête et que je voulais écrire ce livre. C'était hyper important pour moi.
D'accord. Alors donc, c'était le temps de vraiment l'affiner et d'arriver au produit final qui est donc désormais disponible. Donc, vous le disiez, il y a trois personnages centraux. J'aurais même envie de dire qu'il y en a surtout deux et une troisième qu'on voit un peu de temps en temps, mais qui est moins omniprésente que les deux garçons qu'on suit dès qu'ils sont dans l'avion, avant même d'atterrir à Sydney d'ailleurs. On sait bien, les romans, c'est de la fiction, mais il y a toujours une part d'expérience personnelle qui est injectée dedans par des écrivains, ou en tout cas qui sont basés sur des recherches ou des choses comme ça. Dans votre cas, est-ce qu'il y a des morceaux de votre expérience à vous en Australie qui est dans ce livre ou c'est vraiment complètement inventé de A à Z ?
Alors, c'est un roman, c'est fictif. Mes personnages sont imaginés et n'existent pas dans la réalité. Mais évidemment, ils sont inspirés de tous les jeunes que j'ai pu rencontrer en Australie. Les deux personnages principaux dont vous parlez, donc Pierre, qui est un jeune homme du sud de la France, et Valentin, qui est un étudiant parisien, très parisien dans sa manière d'être et dans sa personnalité. Ils sont très différents tous les deux, et en fait, ils vont se rencontrer dans l'avion qui les mène à Sydney. Et puis, étonnamment, ils vont se lier d'amitié jusqu'à partir dans ce road trip ensemble. Je pense que je ressemble un petit peu aux deux. J'ai grandi dans la Drôme, comme Pierre, donc, qui est originaire du Sud-Est. J'ai fait mes études à Paris, comme Valentin. Et Valentin, dans le roman, fuit un chagrin d'amour. Et moi aussi, quand je suis parti en Australie, j'avais un chagrin d'amour. Donc je pense qu'il y a un petit peu de moi dans chaque personnage. Et puis il y a vraiment beaucoup d'inspiration de gens que j'ai rencontrés sur la route. J'ai voyagé avec deux menuisiers sur les routes australiennes. Et ils ont beaucoup inspiré le personnage de Pierre.
D'accord. Alors, dans ce livre, effectivement, on retrouve toutes les choses qui sont un peu communes à la plupart des jeunes Français qui viennent ici en visa vacances-travail, le travail à la ferme, généralement on le fait pour rester une année supplémentaire, des petits boulots pas toujours très gratifiants ou alors dans des endroits complètement paumés, des expériences plus ludiques aussi, on va dire. Du coup, encore une fois, vous, quand vous êtes venu en Australie, est-ce que vous avez travaillé dans des fermes? Est-ce que vous êtes retrouvé à bosser dans une station-service au fin fond du désert? Comment ça s'est passé pour vous cette année en Australie?
Alors, pour moi, il y a plein d'expériences que je raconte dans le roman qui ne viennent pas de moi, mais qui sont inspirées de gens qui me les ont racontées. Par exemple, les 2 mois qu'ils vont passer dans une ferme d'ail dans le nord de l'état de New South Wales. C'est l'histoire d'amis à moi qui me l'ont raconté. Moi, personnellement, quand je suis venu en Australie, j'ai travaillé pour une boîte française de panneaux photovoltaïques qui venait d'arriver en Australie, qui s'appelle Neoen, et qui essayait de s'implanter en Australie. Et je les ai aidés à cartographier la situation du solaire en Australie. Donc, c'était un petit boulot très différent de ce que vont faire mes personnages. Par exemple, mes personnages vont travailler dans une station-service au cœur de l'Outback qui s'appelle Marla, dans la ville de Marla, où passe le GAN qui traverse l'Australie du nord au sud. Ça, c'est complètement imaginé. C'est sur la base de recherches que j'ai faites en ligne. J'avais pris moi-même l'Indian Pacific, le train qui traverse l'Australie de Sydney à Perth. J'avais trouvé ça fascinant comme voyage. Et donc, je me suis inspiré de l'Indian Pacific pour rédiger ce passage sur la station-service où ils vont travailler pendant quelques semaines. Et puis, ils vont travailler en auberge de jeunesse. J'ai beaucoup vécu et voyagé en auberge de jeunesse, comme tous les jeunes de mon âge. Et donc, c'est un lieu très important pour notre génération. Donc, ils vont aussi travailler dedans.
D'accord. Alors, y a quelque chose que je voulais préciser aussi, et à propos de quoi je voulais en savoir un petit peu plus. Dans votre livre, chaque chapitre est ouvert par une petite citation tirée d'un livre de Robert Hughes, qui raconte en gros la création de l'Australie, enfin en tout cas sa colonisation par les Européens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce livre ?
Alors ce livre, ça s'appelle The Fatal Shore, The Epic of Australia's Founding. Donc c'est l'histoire en fait de la manière dont l'Australie a été colonisée par les Anglais. Ça raconte le voyage de la First Fleet en 1787 d'Arthur Phillip, qui part de Portsmouth et qui arrive à Botany Bay pour coloniser l'Australie. C'est un livre qui est passionnant, qui est à la fois un roman et un documentaire, parce qu'en fait, c'est extrêmement détaillé, extrêmement riche. On va vraiment suivre les voyageurs sur tout ce, les bagnards en fait sur tout ce voyage. C'est des jeunes Anglais qui ont été condamnés pour divers crimes et délits et qui vont se retrouver à la déportation, à la lisière de la terre. Ils vont arriver à Botany Bay, ils vont coloniser l'Australie et ils vont travailler pour se libérer de leur chaîne, accéder à l'amnistie et accéder progressivement au bonheur avec un lopin de terre, avec le pastoralisme, et en se rendant compte que l'île sur laquelle on les avait envoyés était assez extraordinaire. Alors c'est un livre qui est très violent, très dur, à la fois sur la dureté du voyage, à la fois sur la rencontre avec la population autochtone, les aborigènes, avec lesquels il va y avoir de la violence, des massacres. Donc ce n'est pas forcément une belle histoire, mais c'est une histoire qui est extrêmement intéressante, qui a façonné l'Australie. Et en fait, quand j'étais en Australie, j'ai vraiment voulu en apprendre plus sur l'histoire et la culture de ce pays. Et voilà, la lecture de ce livre m'a vraiment plu. Et donc, j'ai essayé de m'inspirer de ce livre dans mon roman. C'est-à-dire que mes personnages vont marcher un petit peu sur les pas de ces bagnards anglais. Eux aussi vont arriver à Botany Bay, eux aussi vont remonter la côte jusqu'au Queensland, puis traverser jusqu'à l'Australie occidentale, qui a été la dernière colonie anglaise en Australie. Et donc, je commence chaque chapitre par une citation du livre de Robert Hughes, dont je recommande la lecture parce que c'est vraiment passionnant.
Ok, alors on l'a compris, Guillaume, l'Australie c'est un pays que vous aimez beaucoup, peut-être même plus que ça d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'intention d'y revenir un jour? Je sais qu'il y a eu les élections municipales en France il n'y a pas très longtemps, vous étiez candidat, en tout cas vous étiez sur une liste candidate. Est-ce que votre vie maintenant elle est en France ou vous pensez un jour venir ici, vous installer?
Alors, on a perdu les élections, donc je suis libre de repartir vivre en Australie sans problème. Ouais, j'étais candidat dans mon village où j'ai grandi, sur une liste municipale pour être conseiller à la jeunesse, mais on a perdu les élections, donc il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là. Non, le plus gros sujet avec l'Australie, c'est que c'est à 16 000 km de la France et que ma famille me manquerait trop si je vivais en Australie tout le temps. C'est trop loin, trop cher pour voyager entre l'Australie et la France. En revanche, j'ai prévu d'y revenir. On y est retourné en fait pour les 5 ans de notre voyage. On est retourné avec une quinzaine d'amis en Australie. On a découvert la Tasmanie, qu'on n'avait pas eu le temps de faire à l'époque. Et là, on prévoit d'y retourner en 2022-2023, Noël 2022-2023, pour aller cette fois-ci dans les territoires du Nord, Darwin, où je ne suis pas allé non plus. C'est le dernier état qui me manque en Australie. Donc oui, j'ai hâte de revenir en Australie, c'est prévu, mais malheureusement, je pense que c'est trop loin de la France pour y vivre à plein temps.
Merci beaucoup, Guillaume. Donc pour les gens qui nous écoutent en France, bien sûr, le livre est disponible en librairie. En Australie, c'est plus compliqué, mais on peut le trouver en format électronique sur les sites qui vendent des e-books, Amazon. D'ailleurs, on peut aussi aller tout simplement sur le site de la FNAC. Avec Internet, il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et pour l'avoir lu, et ce livre m'a beaucoup plu, je vous le recommande à tous. Merci encore, Guillaume.
Merci, Grégory. Si je peux préciser, le livre est aussi disponible, je crois, à Sydney et à Melbourne. À Sydney dans l'Abbey's Bookstore et à Melbourne dans la librairie InText. Donc il peut être accessible pour ceux qui se trouvent en Australie.
Autant pour moi, merci pour la précision. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
C'est Rita Mitsuko, communiqueur d'amour, d'ailleurs une émission musicalement placée sous le signe de l'amour. Aujourd'hui, il est 13h59, retour sur les grands titres de l'actualité pour ce 31 mars. Les inondations toujours en Nouvelle-Galles du Sud, surtout dans la région de Lismore, une femme a été portée disparue. En Ukraine, peut-être une accalmie à Mariupol et un cessez-le-feu local et temporaire pour évacuer les derniers civils bloqués dans la ville. Et le monde du sport qui rend hommage à Shane Warne à Melbourne. Voilà, c'est la fin de notre programme sur SBS. Prochain rendez-vous, c'est samedi et dimanche à 13h. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À samedi.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.